Le temps ne veut plus rien dire, ma tête tourne, 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 comme une bête enfermée, je suis folle alliée. Maudite société, n'as-tu rien d'autre à nous offrir que les mots et les images de ta télé? N'as-tu jamais entendu dans cette jaune, le jour, le jour, le jour, le jour, le jour, les cris et les plaintes des forces à modèle? À quoi vont crier dans cet univers des humains? La souffrance et le supplice sont vraiment double, 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 double. Quand vous pouvez cantiner, je dois vous clôner. Mais quel est le goût de votre prétendue liberté, celle qui tous les jours vous envoie bosser? Il arrivera le jour de la belle, 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 où je démolirai mon ventre.
Bruit de tôle, une émission qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs plus ou moins visibles des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il renferme de plus en plus tôt, sous prétexte de délinquance juvénile, de plus en plus souvent, en allongeant la liste des délits et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique, à la mode, pour spécialistes de toutes sortes. Sociologues, médecins, criminologues, politiques, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État et désamorcer, assimiler, digérer toute déviance, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Vous écoutez Bruit de tôle sur Canal Sud 92.2. Nous sommes en direct le jeudi de 19h à 20h et rediffusés le vendredi de 17h à 18h. Donc ce soir, au sommaire de l'émission, nous aurons une lettre d'une proche de détenue au juge d'application des peines. Nous vous donnerons des nouvelles des inculpés du 8 décembre et du prisonnier anarchiste chilien Francisco Solar. Nous parlerons de l'explosion des peines correctionnelles, de la réforme de la justice des mineurs, aussi de l'expulsion des ressortissants afghans, bien que l'État français ait annoncé après la prise de Kaboul par les talibans que plus aucun Afghan ne serait expulsé de France. Et nous vous expliquerons à quoi sert l'antiterrorisme avant de terminer par des annonces sympathiques pour des choses à faire dans les semaines à venir. Donc en attendant de commencer l'émission, et avant d'écouter un petit morceau, je vais vous donner le numéro de téléphone où vous pourrez nous appeler au 05 61 53 36 95, de préférence pendant les pauses musicales.
No.
On va donc commencer avec la lettre d'une compagne de détenue écrite au juge d'application des peines au printemps 2021. Je vous écris afin de vous faire part des sentiments qui sont les miens. Dans la mesure où cela fait presque 6 ans que je subis les décisions de l'administration pénitentiaire et de vos confrères et consoeurs, je pense que pour une fois, vous pourrez consacrer 10 minutes non plus à asséner vos phrases mais à lire. Nous avons, mon compagnon et moi, reçu votre décision concernant sa demande de permission. La réponse est évidemment négative, alors qu'il est permissionnable depuis plusieurs années maintenant. Et vous préconisez une permission à l'hôtel, car il n'est pas opportun de faire droit à la demande sur le lieu envisagé. J'habite une maison individuelle, à l'orée d'un lotissement, proche d'un chemin de campagne. Je me demande quelles sont du coup les conditions opportunes. Je pense que je suis trop classe moyenne, mais je n'arrive pas à comprendre de quel côté j'aurais dû pencher pour satisfaire vos conditions. Concernant l'enquête effectuée, une fois de plus, j'ai pu expérimenter le mépris du système. Les gendarmes m'ont fixé 2 rendez-vous auxquels ils ne sont pas venus, trop de travail. J'ai donc gâché 2 après-midi à les attendre. C'est normal, nous ne méritons pas mieux. C'est à l'image des réponses inexistantes à mes courriers que j'ai pu vous envoyer. Sans parler de l'humiliation provoquée par votre proposition. Je pense que nous n'avons pas la même vision d'une vie normale. En effet, je croyais que les permissions visaient à réinsérer progressivement le détenu dans une vie équilibrée et stable. Me concernant, il s'agit d'un quotidien assez classique, puisque je travaille depuis 18 ans comme enseignante en lettres et j'élève mes 2 enfants. Pour vous, il semble qu'une rencontre à l'hôtel soit synonyme de cette stabilité. Je n'ai peut-être pas précisé que je ne logeais pas à l'hôtel. Ma vision du quotidien ne ressemble pas à une passe de prostituée. Je n'ai aucun préjugé sur les prostituées, simplement ce n'est pas mon métier. À cela s'ajoute la situation sanitaire qui fait que je ne suis absolument pas certaine que les hôtels soient ouverts. Quant au restaurant, je sais que non. Donc même si j'avais envisagé la permission de cette façon, nous n'aurions pas pu nous nourrir correctement. C'est tout le respect que vous nous témoignez. C'est assez représentatif de notre parcours pénitentiaire, si l'expression existe. Nous sommes habitués aux humiliations, au mépris, au manque de déontologie et parfois d'intelligence des systèmes pénitentiaires et judiciaires, mais j'avoue que cette fois, me concernant, les limites sont dépassées. Cela fait des années que nous nous voyons dans une boîte. Je ne souhaite pas que les permissions soient également dans une pièce impersonnelle, sans rien à disposition pour avoir un semblant de vie normale. Nous vous avons, vous et vos collègues, avertis à plusieurs reprises de notre situation aberrante et indigne. Nous avons signalé que nous n'avions pas eu d'unité de vie familiale depuis 1 an, alors que nous nous voyons depuis des années de façon très régulière. Avec la crise Covid, après plusieurs mois sans rendez-vous, les parloirs n'ont repris qu'à raison de 45 minutes par semaine en salle collective, puis avec du plexiglas, avec évaluation du respect des gestes barrières à l'appréciation des surveillants. Ensuite, il a été transféré. Je n'ai pu y aller car il risquait de partir à tout moment, et cela me demandait d'engager des frais sans pouvoir être sûr de le voir. Après son dernier transfert, durant plus d'un mois, nous avons dû attendre que les permis soient refaits. Puis nos 2 unités de vie familiale ont été supprimées, l'une pour le confinement, l'autre parce que les autorisations n'ont pas repris. Les surveillants entrent et sortent, ne portent pas tous le masque, ne se désinfectent pas les mains, mais les détenus ne peuvent pas voir leur famille, y compris si nous présentons un test PCR négatif et s'ils sont isolés ensuite. Les parloirs ne sont que 1 heure le samedi et 1 le dimanche. Les horaires pour les prises de rendez-vous illustrent une fois de plus le mépris de l'administration pour les familles. Le lundi, de 13h à 16h, le mardi, de 13h à 16h, je crois, et le mercredi, de 10h à midi. Il faut croire que les familles ne travaillent pas aux yeux de l'administration et sont donc disponibles pour téléphoner sur ces créneaux, sachant qu'il faut 35 à 40 appels pour obtenir le service. La dame au téléphone m'a finement expliqué « il faut vous battre ». C'est vrai que les obstacles ne sont pas assez nombreux. À mon compagnon, lorsqu'il a su en septembre que notre première unité de vie familiale était prévue en janvier, on a expliqué « 4 mois, ça sera vite fait ». On lui a également conseillé de rester digne dans la frustration. Les grands penseurs ne manquent pas dans le personnel surveillant. Enfin, vous estimez que mes enfants étant mineurs et les pères peu enthousiastes, je ne peux leur présenter mon compagnon. Donc, après avoir été jugé et incarcéré, mon compagnon devrait être isolé, ostracisé, car non fréquentable. De plus, j'avais précisé que pour cette permission, justement, j'avais choisi une période où mes enfants étaient absents, car contrairement à ce que vous semblez croire, je souhaite leur bien-être et je réfléchis à la façon dont les choses doivent être amenées. Je n'ai jamais caché ma situation à mes anciens conjoints. J'assume pleinement ma vie. Je ne vois pas pourquoi vous décideriez pour moi qui mes enfants rencontrent. J'ai toujours pris cette relation de couple très au sérieux, quoi qu'il en coûte. En parlant de coûts, enfin, sachez que ma vie avec mon compagnon a représenté énormément d'efforts, en termes de fatigue, beaucoup de trajets, de temps perdu à attendre, un parloir d'une heure monopolisant une demi-journée, de soucis, de tâches administratives, etc. D'argent. Je pense avoir dépensé plus de 7 500 € pour divers besoins, sans compter les frais pour chaque déplacement au parloir, environ 120 € par week-end. Je précise cela car aujourd'hui je viens vous dire que vous avez eu raison de notre couple. Je vous laisse donc le soin de gérer la réinsertion de mon compagnon. Je ne doute pas que cela soit une priorité pour vous que de veiller à une bonne réinsertion des détenus. Je ne voudrais pas entendre que je lâche bien facilement ou quelque autre remarque signifiant que je n'ai pas suffisamment persévéré. J'ai supporté les humiliations diverses imposées par les surveillants, les administrations, les juges, le fait de devoir demander pour aller aux toilettes, de mettre dans des bacs, visibles de tous, mes tampons hygiéniques pour aller au parloir, de marcher en chaussettes pour les fouilles, de voir le linge que j'avais lavé et plié mis volontairement en boule par des surveillants mal intentionnés et hilares. J'ai passé des week-ends dans le foyer pour familles de détenus, avec parfois des gens qui n'avaient aucun savoir-vivre, voire agressifs. J'ai vu des toilettes de parloir couvertes de sang, avec des traces de mains ensanglantées sur les murs, suite à une bagarre entre deux personnes, sans aucune réaction des surveillants, malgré la présence d'enfants. J'ai été menacée de mort par un détenu souhaitant nuire à mon compagnon. J'ai supporté les remarques déplacées, le tutoiement des surveillants et leur comportement inique. J'ai enduré l'inquiétude liée à l'état de santé de mon compagnon et à la façon dont ses soins ne sont pas prodigués en prison. L'administration pénitentiaire est responsable de sa santé et de sa sécurité. Il semble que les devoirs et obligations ne fonctionnent que dans un sens dans ce monde clos. Maintenant, c'en est assez. Puisque je ne suis pas suffisante, puisque mes propositions en termes de cadre de vie, de stabilité ou d'équilibre ne conviennent pas, puisque personne ne juge indispensable et normal que je puisse voir mon compagnon, je mets un terme à tout cela parce que j'ai besoin moi aussi d'un équilibre et de préserver ma santé mentale et physique. J'attends de voir ce que vous proposerez de mieux et ce que vous mettrez maintenant en place, puisque c'est l'une de vos missions, pour que sa sortie soit propice à sa réinsertion. Quand je dis que j'attends, ce n'est d'ailleurs pas vrai. Je n'attends plus rien, je quitte mon compagnon et surtout ce milieu, mais ce n'est pas par manque d'amour, plutôt par résignation et par usure. Je ne suis pas indestructible et j'en ai plus qu'assez de toute cette médiocrité, de toute cette malhonnêteté ou mauvaise foi et de ces exigences incessantes et toujours plus importantes, sans rien en retour. Vous êtes désormais seul responsable de la suite de son parcours.
Témoignage difficile. Une information, alors là c'est un communiqué de la Quadrature du Net par rapport aux inculpés du 8 décembre, dont on a déjà parlé ici sur cette antenne. 10 mois derrière les barreaux pour des inculpés du 8 décembre. Le 8 décembre 2020, c'est plusieurs perquisitions qui ont eu lieu aux quatre coins de la France, menant à l'arrestation de 9 personnes. Après 96 heures de garde à vue dans les locaux de la DGSI, 7 d'entre elles et eux sont mises en examen pour association de malfaiteurs à caractère terroriste en vue de la préparation d'un crime, d'atteinte aux personnes dépositaires de l'autorité publique. Le 8 décembre 2020, plusieurs perquisitions ont eu lieu aux quatre coins de la France, menant donc ces arrestations. 5 de ces personnes sont alors incarcérées, toutes sous le statut de détenus particulièrement surveillés, DPS. Fin avril 2021, après 5 mois de privation de liberté, 2 de ces personnes sont libérées et très récemment, à la mi-octobre 2021, suite à une demande de mise en liberté, une autre personne est libérée sous contrôle judiciaire, bien que le parquet ait fait appel, mais en vain. Un des prévenus est placé à l'isolement depuis son arrestation, c'est-à-dire depuis le 8 décembre 2020, privé de tout contact avec d'autres détenus, isolement qui dure depuis 10 mois, qui a été reconduit pour 3 mois supplémentaires le 8 septembre 2021. Cette situation doit cesser au plus vite. Concernant les mises en examen, les faits qui leur sont reprochés sont flous. Les liens entre elle et eux également. Certaines personnes ne se sont jamais rencontrées auparavant. Le scénario de la DGSI semble avoir été pré-écrit et être le résultat d'une construction policière à visée politique avec la création de figures de coupables idéaux et d'une structure pyramidale. Ces arrestations interviennent dans un contexte politique de criminalisation croissante des mouvements sociaux. Le recours à l'accusation d'associations de malfaiteurs est toujours plus utilisé pour casser les collectifs militants et écraser les luttes. Nous assistons depuis plusieurs années à une surenchère législative, loi sécurité globale, loi séparatisme, décret Darmanin, etc., etc. L'autorité administrative prend le pas sur le judiciaire. Avec la mise en œuvre d'une forme de justice prédictive, désormais tout le monde est présumé coupable et les personnes sont jugées sur des intentions et des présomptions d'intention. Par ailleurs, nous observons également un énième changement de doctrine de la France sur la question kurde, avec l'arrestation de militants kurdes en mars 2021, la criminalisation des personnes qui ont combattu au Rojava, alors que celles-ci étaient considérées un temps comme alliées dans la lutte contre Daesh et maintenant à nouveau perçues comme des ennemis de l'intérieur et des terroristes. La criminalisation des opposants politiques par le biais de l'accusation d'associations de malfaiteurs donne lieu donc à des écoutes et des techniques de surveillance intrusives. L'interdiction d'entrer en contact avec d'autres personnes mises en cause rend impossible toute solidarité entre elles et eux et les prive de relations intimes et précieuses avec leurs proches. Les notes blanches, je vous rappelle, outils de l'antiterrorisme, ce sont des rapports des services de renseignement qui ne sont pas signés, qui n'indiquent pas la source de leur information, extrêmement vagues et abstraits, et fondés sur de simples rumeurs ou autres dénonciations vindicatives, mais ce sont des rapports des services de renseignement. Donc ces notes blanches, outils de l'antiterrorisme et des renseignements territoriaux, deviennent monnaie courante, empêchant les prévenus et leurs défenses d'avoir accès au contenu de leur dossier en intégralité. Donc le comité de la quadrature du net dit « Nous dénonçons également les conditions d'incarcération en France, régulièrement épinglées par les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Quartier disciplinaire où les conditions de détention opaques échappent aux droits communs et violent les conventions internationales. Conditions d'incarcération d'exception. Recours à l'isolement comme moyen de pression. Morts suspectes dans des quartiers disciplinaires. Surpopulation carcérale. L'État déclenche un grand plan prison, soi-disant pour désengorger les prisons surpeuplées. Construction de 8 nouvelles prisons sur le territoire qui devraient être livrées en 2027 pour un prix faramineux. Laissant croire qu'il se soucierait alors de la dignité des prisonniers et prisonnières, alors que ses visées sont avant tout économiques et répressives, où l'on voit le nombre de prisonniers augmenter d'année en année. Les conditions d'arrestation et de détention, pour nos camarades comme pour toutes les personnes mises à l'ombre, sont aussi déplorables que scandaleuses. Les déplacements lors des arrestations du 8 décembre 2020 sont conditionnés. Les prévenus sont encagoulés, entravés, camisoles immobilisant le bras le long du corps via des sangles. Par la suite, on rapporte l'absence d'avocats ou d'avocates pendant les très longues heures. La privation de sommeil, de nourriture, des interrogatoires lunaires portant plus sur des opinions et orientations politiques que sur des faits. Toutes ces méthodes constituent un non-respect de la présomption d'innocence. Cela a également un impact sur les proches qui, démunis, ne savent vers qui se tourner, tétanisés par la peur. Nos camarades ont tous été placés en détention sous le statut donc de DPS. Deux surveillantes ou surveillants sont mobilisés à chaque déplacement, voire parfois gradés, compliquant l'accès aux soins, aux douches, aux parloirs. Pas d'accès aux activités collectives ni au travail, brimades, fouilles corporelles intégrales avant et après chaque parloir. Changement de cellule ou de bâtiment, alors même que les habitudes et la routine sont cruciales pour la santé mentale des détenus. Notre camarade, toujours maintenu à l'isolement, subit non seulement toutes ses privations, mais également cantonné en promenade seul, dans une cour de 20 mètres carrés recouverte par un grillage. Son accès aux soins est entravé, notamment concernant ses demandes de consultation auprès du médecin, du dentiste, du psychologue. Les conséquences sur sa santé mentale sont délétères, puisqu'il subit des pertes de repères spatio-temporelles et des pertes de mémoire. Son isolement est renouvelé tous les 3 mois depuis son incarcération, c'est-à-dire depuis 10 mois. Les nombreux recours et demandes de référés ont tous été rejetés, sans plus d'arguments. Le communiqué se termine ainsi. Nous exigeons la libération immédiate de nos camarades et la fin de la détention provisoire pour tous. Nous demandons également que l'ensemble des prévenus ait accès à tous les éléments du dossier, la fin de la mise à l'isolement comme outil de répression pour broyer les détenus et la fin de la criminalisation des militants politiques et des poursuites contre elles et contre eux.
Alors, la répression, c'est pas qu'en France. Alors, au Chili aussi, il y a pas mal de répression. Il y a notamment pas mal de prisonniers anarchistes. Et au début de 2021, ils ont lancé une grève de la faim qui a duré plus de 50 jours contre la modification du décret-loi 321. Alors, c'était un décret-loi qui modifiait les conditions d'accès à la liberté conditionnelle et donc qui on ne pouvait obtenir la liberté conditionnelle que sur la base d'un rapport psychosocial de l'administration pénitentiaire, autant dire que c'est uniquement en récompense d'un bon comportement. Donc ça passait d'un droit à un système de récompense, on va dire, pour les gens qui se tiennent bien. Il faisait également cette grève de la faim en demandant la remise en liberté immédiate d'un prisonnier anarchiste qui s'appelle Marcello Villarroel. Parmi ces prisonniers anarchistes, il se trouvait Francisco Solar, qui avait déjà fait une grève de la faim de 60 jours en 2010 dans le cadre de l'affaire Caso Bombas. Donc Caso Bombas, c'est une affaire judiciaire, une enquête judiciaire qui a été menée donc suite à des attaques à la bombe à Santiago du Chili, donc la capitale chilienne, des attaques qui ont été attribuées à des groupes anarchistes qui se sont déroulées en 2009. Donc au cours de la grève de la faim qui a eu lieu donc début 2021, Francisco Solar a subi plusieurs prises de sang de la part de l'administration pénitentiaire. Il a été interné en urgence à l'hôpital pénitentiaire en raison d'un mauvais résultat des analyses de sang. Mais bon, quelques minutes plus tard, les surveillants changent d'avis et reviennent le chercher pour le ramener en prison. Donc c'est un peu étrange comme situation. Il récupère très lentement, avec des courbatures permanentes, une soif intense, une perte de poids. Il a demandé des examens médicaux après son transfert à la prison de Rancagua. Ces examens n'ont été effectués que le 22 septembre, date à laquelle il a été hospitalisé en urgence. Et donc, il lui a été diagnostiqué un diabète avancé avec 700 mg de décilitre de glucose, c'est-à-dire pas loin d'un coma diabétique. Quand son état a été stabilisé, il a été réincarcéré dans le module 2, où malgré les deux doses journalières d'insuline qui sont administrées par les surveillants, il n'atteint pas encore des taux normaux de glucose. Après son retour aux prisons, quelques jours après, il a commencé à souffrir d'une importante perte de vision qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Il n'a reçu aucun soin pour cela, ce qui l'empêche de lire ou d'effectuer certaines tâches quotidiennes. Dans l'appel envoyé par des camarades anarchistes chiliens, donc qui précisent que la prison de Rancagua est gérée par une entreprise privée, ce qui implique une alimentation désastreuse et l'interdiction systématique d'entrée de la nourriture, ce qui oblige les prisonniers et prisonnières à acheter en gros les aliments vendus par l'entreprise gestionnaire qui en détient le monopole et qui aussi décide de ce qu'elle vend. Et cette réalité signifie en pratique en gros l'accentuation de la maladie et de l'état de santé de Francisco Solar. Donc l'appel se termine ainsi: pour la vie et la santé de notre compagnon, il devient urgent que la matonnerie n'impose plus de restrictions à l'entrée d'une médecine particulière déjà accordée avec celle-ci, mettre un terme aux interdictions et limitations des colis et facilite un traitement adéquat permettant une autonomie minimale à l'intérieur de la prison. Nous savons que la prison vise à anéantir, à diminuer l'individu et par conséquent que franchir les obstacles et empêchements imposés par la bureaucratie carcérale ne peut passer que par la mobilisation, la solidarité et le soutien mutuel. Nous rendons l'administration pénitentiaire responsable de toute aggravation de l'état de santé de notre compagnon. Et donc, ils disent agitation et solidarité pour la santé du compagnon Francisco, liberté pour les prisonniers et prisonnières subversives et anarchistes.
Voilà, on revient sur les conditions d'enfermement et de prison en France. puisqu'on voit quand même que c'est assez international, hein, le traitement des prisonniers. Là, c'était un article du journal Le Monde, un article argumenté de chiffres, et qui dit que contrairement aux idées reçues, la tendance n'est pas au laxisme. Non seulement le nombre de personnes maintenues en prison ou sous bracelet électronique a doublé en 40 ans, représentant 124 personnes pour 100 000 habitants au 1er janvier 2020, alors qu'elle représentait 57% pour 100 000 habitants, donc en 82. Mais la durée moyenne de détention, elle, s'allonge. Il ne s'agit pas là de condamnation, mais bien du nombre de mois passés derrière les barreaux qui a augmenté d'un quart en 15 ans. Le nombre de condamnations à de la prison ferme a doublé en 20 ans en matière de délits, essentiellement pour les violences contre les personnes et les infractions liées aux stupéfiants. Cette petite et moyenne délinquance mal supportée par l'opinion. Si le nombre des condamnés pour crimes aux assises est stable, la tendance est à l'allongement significatif des peines. Et pour dire, il y a eu donc un graphique qui nous présente en 40 ans, c'est de 1980 à donc 2020, le nombre de personnes écrouées. Elles étaient de 37 000 à peu près, 37 000 donc en 1980, et elles sont de 82 200 en 2020. Ce qu'il faut savoir donc, ce qui est intéressant par rapport à la population, donc pour 100 000 habitants. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était 57 en 1980, 57 personnes donc écrouées pour 100 000 habitants. On est monté à 100 personnes en 2006, 7, 8, 8 à peu près, pour 100 000 habitants. Mais aujourd'hui, c'était en 2020, donc 124 personnes pour 100 000 habitants sont écrouées. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre d'affaires poursuivables, c'est-à-dire infractions caractérisées, auteurs identifiés, donc procès, condamnation, eh bien, ce nombre d'affaires était de 1,46 million en 2005. Et il a baissé en 2019. Il est plus que de 1,40 million. Eh bien, malgré cette baisse, on s'aperçoit que la réponse pénale, elle, a fortement augmenté, puisqu'elle est passée de 75% par rapport donc au nombre d'affaires à 90% en 2019. Les condamnations, elles aussi. 2005, il y en avait 489 000. On en est à 550 000 en 2019. Je vous rappelle bien que le chiffre a diminué, hein, Et la durée moyenne de détention, elle aussi augmente, puisqu'en 2006, elle était à environ de 8,6-9 mois, disons, et elle est passée à 11 mois. Et cette explosion des peines de prison, qui a plus que doublé, puisque entre, alors là, c'est dans les 20 dernières années, entre 2000 et 2020, eh bien, c'est les emprisonnements entre 6 mois et moins de 3 ans qui sont passés de 11 000 à 31 000, qui ont carrément triplé. Et on s'aperçoit aussi les condamnations de 5 ans et plus qui, elles aussi, ont fortement augmenté. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est par rapport à un chiffre qui est resté stable sur, on le redit, les faits pénalisés, quoi. Eux, ils sont restés stables. Et malgré tout, pour les peines criminelles, entre 10 ans et moins de 20 ans, on avait diminué donc entre 2000 et 2020. Mais entre 20 à 30 ans, là, on est passé de 657, c'est-à-dire pour des peines très très longues sur des crimes graves, on est passé à 2000, plus de 2000 pour des peines de 20 à 30 ans. Et la perpétuité, elle, c'est à peu près stable, 500 personnes. Alors, cette population écrouée ne représente qu'une minorité de personnes placées sous la surveillance de la justice. Ici, on vous l'avait déjà dit, en effet, il y a plein de gens qui sont sous contrôle judiciaire ou qui sont dans des services pénitentiaires d'insertion, etc. Le nombre de personnes suivies en milieu ouvert, lui, a augmenté de 27%. Comparé à ses voisins, la France donc, se situe à mi-chemin entre deux blocs par rapport à l'Europe, du Royaume-Uni et de l'Espagne et de l'Allemagne et l'Europe du Nord. Mais c'est le seul pays, la France, qui voit sa population carcérale augmenter quand elle est en baisse depuis plusieurs années dans l'ensemble de l'Europe. Ce qu'il faut dire aussi, c'est l'explosion, on parle souvent de l'explosion de l'atteinte au portable. Je vous donne la réponse. De l'atteinte aux personnes. On vous dit que ça a augmenté. Mais en fait, vous savez que quand on vous vole votre portable à la main, c'est une atteinte aux personnes. Donc il y a certains délits qui augmentent, tout simplement du fait de l'opportunité. Et puis aussi, ce qui est relaté et qui est vu par rapport aux peines importantes, c'était les atteintes à la personne, notamment les atteintes sexuelles. Mais là, à en croire les faits enregistrés, ils auraient plus que doublé en 20 ans. Seulement, on pense, et c'est dit parmi les statistiques, que c'est plutôt la libération des paroles des victimes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire que ces faits ont augmenté, mais les condamnations, n'ont pas augmenté. Viols et agressions sexuelles, on s'aperçoit que même elles ont diminué de 1% ces condamnations, alors que les infractions liées aux stupéfiants, elles, ont grimpé. Il y a 11 442 personnes qui sont écrouées pour cela. Et puis après, je lis sur la circulation, c'est-à-dire, je pense que c'est les délais routiers, hein, circulation. Et là aussi, alors là, ça augmente, c'est 32% de personnes qui sont écrouées. Alors sur des petites peines, mais qui sont quand même écrouées. C'est intéressant quand même de voir comment on se comporte la justice en France. Toujours plus de répression, toujours plus de prison, même si parfois la délinquance ou les faits restent les mêmes, quoi. On fait une pause.
Faut parler tout bas quand t'es bien élevé. Moi je parlais tout bas, là je vais arrêter. Le silence des fois, faudrait l'exécuter. Vu l'ambiance dérapage à tous les étages, je balancerai bien mes petits ressentiments. Mais pareil, je suis une fille et une fille n'en a pas. J'ai une drôle de rage et je sais plus quoi en faire. Puis je la jette par terre. On me dit que je saccage. Je voulais la refiler, mais ici c'est pas la peine. Tout le monde a la même et en double. Faux semblant, c'est l'orage sous la nuit. J'ai dévisagé la peur, on survit. La mémoire, des fois, c'est un sport de combat. Exécution sommaire dans le silence le plus exemplaire, dans les caves, les familles, et même en pleine lumière. Le silence c'est la guerre, le silence c'est, et il paraît que je suis une fille. Voulais la refiler, mais ici c'est pas.
Le nouveau code de justice pénale des mineurs est entré en vigueur le 1er octobre après un parcours législatif express. Nouveau passage en force. À Clermont-Ferrand, le 30 septembre, le comité justice des mineurs du 63 a organisé un rassemblement devant le tribunal. Réveille-toi, Prévert, ils sont devenus fous. Le nouveau code de justice pénale des mineurs est entré... Pardon, un petit problème de fichier. À Clermont-Ferrand, ce 30 septembre, comme dans Main en droit en France, répondant à l'appel du collectif national des professionnels de la justice des enfants et des adolescents-adolescentes, le comité justice des mineurs du Puy-de-Dôme a dans l'urgence organisé un rassemblement devant le tribunal de Clermont-Ferrand après l'envoi d'une demande à être reçue en délégation par la présidente du tribunal judiciaire et par la vice-présidente en charge du tribunal pour enfants, lettre signée par ce collectif et l'ordre des avocats. Au sortir de la guerre, les enfants et adolescents et mineurs, jusqu'à 21 ans à l'époque, à la rue, ballottés par la guerre, orphelins, filles et filles de fusillés comme de collabos, anémiés et malingres, survivants en temps de guerre avec des combines peu regardantes sur la légalité, représentaient l'avenir de la France après ce cataclysme que furent ces années. Le législateur de la libération avait compris, après l'épreuve, que l'éducation était la voie royale, la seule voie efficace pour permettre à la jeunesse délictueuse d'évoluer avec ce temps nécessairement long vers des chemins plus vertueux, du moins hors délinquance. Ce fut l'ordonnance du 2 mai 1945 qui, dans son préambule, stipule « Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l'enfance traduite en justice ». La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. La guerre et les bouleversements d'ordre matériel et moral qu'elle a provoqués ont accru dans les proportions inquiétantes la délinquance juvénile. La question de l'enfance coupable est une des plus urgentes de l'époque présente. Désormais, tous les mineurs jusqu'à l'âge de 18 ans auxquels est imputée une infraction à la loi pénale ne seront déférés qu'aux juridictions pour enfants. Ils ne pourront faire l'objet que de mesures de protection, d'éducation ou de réforme, en vertu d'un régime d'irresponsabilité pénale qui n'est susceptible de dérogation qu'à titre exceptionnel et par décision motivée. L'ordonnance apporte une profonde réforme au casier judiciaire des mineurs en vue de lever toute entrave aux chances de relèvement ultérieurs. Ce n'était pourtant pas un gouvernement révolutionnaire, ce gouvernement provisoire dirigé par le général de Gaulle, mais il avait le sens des responsabilités et du progrès social pour une société à reconstruire. Aujourd'hui, face au désordre de la société bâtie sur l'argent, la corruption, le fric et le pouvoir pour un petit nombre de parvenus ou d'héritiers toujours avides de s'enrichir toujours plus pour aller sur Mars ou manipuler la planète, la jeunesse n'est plus appréhendée comme un âge à éduquer susceptible d'évoluer grandement et positivement, mais un âge à réprimer coûte que coûte pour calmer cette peur manipulée et exacerbée du monde des adultes quand les plus pourris de la planète font la pluie et le beau temps avec les milliards accumulés par la tromperie et l'exploitation, même s'ils acculent la planète à la destruction des ressources et du vivant, humain compris. Oui, les ados peuvent être terribles, irritants, délinquants, destructeurs, mais que vivent-ils? Qu'ont-ils vécu qui les amène à des extrémités que le lent et patient travail de retisser du lien peut amener à dépasser? C'est d'abord le monde des adultes qui en est la cause et ce code est la défaite de ce monde. L'ordonnance de 45, plusieurs fois modifiée, a vécu, mais c'est surtout cette représentation du jeune, de l'enfant, du mineur délinquant qui a changé pour le considérer à nouveau comme un presque adulte. Oui, ils sont devenus fous pour tourner ainsi le dos à la protection des mineurs par l'éducation, à condition qu'elle en ait les moyens, ce qui n'est pas vraiment le cas, qui est la voie de la protection des populations. Il n'y a pas d'issue à la délinquance juvénile et enfantine si la solution, toujours à inventer, ne passe pas par l'éducation, sans en paroles creuses lénifiantes, mais par la case probation et incarcération qui fixe le mineur dans la délinquance quand elle ne l'accélère pas, favorisant la récidive. C'est l'équivalent d'un suicide collectif par peur irraisonnée de la jeunesse, peur martelée, distillée par des médias aux ordres ou complices, par ces gouvernements et forces politiques de droite quand ce n'est pas la gauche perdue qui a trahi les énergies de la libération. La grille des prisons se referme à nouveau comme cette photo en est le symbole, malgré la protestation qui s'affiche, méprisée par les puissants faibles. Le 30 septembre 2021, le Code de la justice pénale des mineurs entre en application. Faisant fi des avis des professionnels de la justice et de l'enfance, le gouvernement est passé en force, dans le cadre d'une procédure rapide, limitant le débat démocratique. Pourtant, la façon dont notre pays traite les adolescents-adolescentes commettant des actes de délinquance est une question de société importante. Considérons-nous que ces adolescents-adolescentes sont encore des enfants ou ont-ils droit à l'éducation ? Considérez-vous que vos adolescents-adolescentes sont encore des enfants ? Le gouvernement fait le choix d'un texte qui renforce une idéologie sécuritaire et gestionnaire. Il entérine une politique pénale toujours plus expéditive et répressive. Il prône plus de célérité, généralise les procédures rapides, axe la prise en charge des adolescents-adolescentes sur le contrôle, fait appel encore davantage aux centres éducatifs fermés et aura pour conséquence une augmentation de l'incarcération des adolescents et adolescentes. Pourtant, aujourd'hui, c'est de moyens dans les secteurs de l'enfance, de la justice des enfants, du social et du médico-social ont besoin. Dans le Puy-de-Dôme comme ailleurs, des décisions de placement prononcées par les juges des enfants pour des enfants en danger restent sans réponse. La mise en place d'aides éducatives en milieu ouvert, AEMO, permettant souvent d'éviter un placement, mettent plusieurs mois à se mettre en place en raison du manque de moyens. Des jeunes majeurs se retrouvent sans domicile, à la rue, sans soutien. Au contraire, la France est un des pays de l'OCDE qui enferme et réprime le plus les enfants et les adolescents. Seul l'accompagnement éducatif autour d'un projet d'insertion sociale et professionnelle, le travail avec les parents, la prise en compte du parcours de vie du ou de la jeune, souvent rythmé de difficultés familiales, de rupture, de violence, sont des gages d'insertion et de non-récidive. Le contrôle et la répression aggravent les difficultés rencontrées par les jeunes et ne sont pas des leviers efficients. Nous réaffirmons que c'est d'éducation dont les enfants et les adolescents ont besoin. Et donc ça, c'était posté par Georges André, qui est psychologue à la retraite, photographe et journaliste citoyen, militant associatif et animateur d'ateliers d'écriture.
Et donc, pour revenir sur cette loi de 45, alors quand même, elle n'était pas aussi extraordinaire que ça, vu le gouvernement qui l'a voté d'ailleurs, mais parce qu'il a fallu quand même attendre 1977 pour que les bagnes pour enfants, ces maisons de correction, ferment. Donc 45 à 77. Il faut dire que les réformes, cette loi a subi près de 38 modifications et qu'actuellement, 894 adolescents sont incarcérés en prison, 1350 jeunes sont placés en centre éducatif fermé, certains placés en psychiatrie, les enfants étrangers, eux, sont enfermés dans les CRA. Ils étaient 208 en métropole et 1220 à Mayotte. Rappelez-vous Mayotte, on en a parlé dans Bruit de tôle. Et auxquels il faut ajouter 339 mineurs non accompagnés qui sont enfermés pour soupçon de majorité. Et il faut dire que cette tendance répressive donc, ne date pas d'hier, tel que ça a été dit, et notamment en ciblant des faits et des délits. Typiquement des enfants, par exemple l'histoire d'être dans les halls d'immeubles, l'histoire d'avoir des incivilités autour de la sortie de l'école, etc. Il faut dire aussi qu'ont été renforcées toutes les caméras de surveillance, qu'on a depuis 2002, avec l'apparition des centres éducatifs fermés, eh bien, on n'arrête pas d'en construire. 6 prisons pour enfermés sont construites pour mineurs, c'était les EPM, ça c'est les prisons. 47 quartiers pour mineurs QM sont implantés au sein des prisons. Donc 75% des détenus adolescents sont enfermés dans ce qui peut être un étage ou quelques cellules dans une prison. Donc il faut bien voir que ce gouvernement, comme tous les autres, continue sur la répression. Il envisage de construire 20 nouveaux centres d'éducation fermés en 2021, en plus des 52 déjà en activité. Tout ça pour un budget de 17 millions. En fait, on s'est aperçu que plus l'enfermement intervient jeune, plus il est destructeur irrémédiablement. 70% des mineurs retournent en détention dans les 5 ans après leur sortie. Et c'est un taux qui est beaucoup plus élevé que la récidive chez les majeurs, qui est de 63%. Donc on sait très bien que c'est quand même pas mal. La prison, ça ne sert pas à grand-chose. Alors il est question aussi de l'éducation, mais il faut savoir que pour contrôler cette population dès le plus jeune âge, les instituteurs et les enseignants sont convoqués pour participer à un grand dépistage de déviance, de propos litigieux, de comportements inciviles. On crée même des bases informatiques pour repérer, répertorier, mettre en statistique tous les enfants qui ne veulent plus être à genoux. Et il faut dire que de nombreux professionnels estiment que ce n'est pas leur fonction et qu'ils n'ont pas à être des auxiliaires de police. Donc pour conclure, la prison est bien l'aboutissement d'une longue série de mépris, d'exclusions, d'humiliations, de dépossessions qui commencent dès la naissance par rapport aux enfants et qui reste plus grand-chose d'une loi soi-disant de protection de l'enfance. Alors on va écouter un poème, un texte que peut-être beaucoup de gens connaissent, c'est La chasse à l'enfant.
La chasse à l'enfant, Jacques Prévert, 1934. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Qu'est-ce que c'est que ces hurlements? Bandits, voyous, voleurs, chenapans. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens, à coups de clé, lui avaient brisé les dents. Et puis, il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, chenapan. Maintenant, il s'est levé, et comme une bête traquée, il galope dans la nuit, et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, voleur, chenapan. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis. Tous les braves gens s'y sont mis. Qu'est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit. On tire sur lui à coups de fusil. Bandit, voyou, voleur, chenapan. Tous ces messieurs, sur le rivage, sombre douille et vert de rage. Bandit, voyou, voleur, chenapan. Rejoindras-tu le continent? Rejoindras-tu le continent? Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau.
Alors, on va continuer avec les annonces. Donc, on voulait vous faire part d'une initiative qui s'appelle Du Raffut contre les frontières. Donc, c'est un cycle de débats et de rencontres sur les insultes à l'humanité que sont les frontières et les nations, mais aussi sur les belles tentatives pour s'en défaire. Donc, je vous lis le début de l'appel. Tous les jours, un peu partout dans le monde, des personnes se font barrer la route, arrêter, enfermer, pourchasser, déporter, et souvent tuer pour la simple raison de ne pas avoir des papiers en règle. Tout ça se passe près de chez vous. Difficile d'expliquer comment une pratique à ce point cruelle a pu traverser l'histoire de l'humanité pour devenir une banalité reléguée aux oubliettes du quotidien quand elle n'est pas carrément justifiée. C'est pour s'opposer à cette banalisation de la violence que nous souhaitons organiser un cycle de discussions à propos des frontières, de leur fonctionnement matériel et symbolique, de leur terrible succès, mais aussi de leur faiblesse qui pourrait s'avérer utile pour que leur marche quotidienne soit mise en échec. Dans ce sens, on s'intéressera plus particulièrement au centre de rétention administrative au moment où l'État français annonce la création de nouvelles prisons pour sans-papiers. Mais nous aborderons aussi la question du nationalisme afin de comprendre les rouages de ce sentiment diffus qui participe grandement à légitimer l'existence des frontières. Donc, il y a quatre événements différents. Donc, ça commence le samedi 13 novembre à la Turbine 3 rue des Cheminots où à 15h il y a un échange autour des frontières. Donc qu'est-ce qu'une frontière? Comment elle se manifeste dans la vie de tous les jours? Qui concerne-t-elle? Pourquoi devrait-on s'y opposer? Donc une discussion donc à bâton rompu autour de nos expériences quotidiennes. Donc toujours le samedi 13 novembre à l'itinéraire bis fin de rue Périole à 19h, il y a un point info sur l'opération Scintilla. C'est une rapide présentation de l'opération répressive Scintilla à Turin, où des anarchistes sont accusés d'avoir participé à une lutte contre les prisons pour étrangers dans la région turinoise. Et donc il y aura une cantine et un bar de solidarité pour les accusés de Scintilla. Ensuite, le 17 novembre, à la chapelle 36 rue Casanova, à 18h, il y aura une ouverture apéro, suivie à 19h30 de la projection du film No Man's Land de Dani Stanovic. C'est un film donc bosniaque qui a été réalisé en 2001. Un Serbe et un Bosniaque se retrouvent au milieu du No Man's Land. Qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent à se détester et se craindre? Leur sentiment d'appartenance à leur patrie, leur devoir nationaliste de militaire? Et ensuite, le 25 novembre, au Chat Noir, 33 rue Antoine Puget, il y aura une discussion autour du nationalisme. Donc, il y aura l'ouverture du lieu à 18h, puis la discussion à 19h. Qu'est-ce que le nationalisme? Pourquoi a-t-il été inventé? À quoi sert-il de nos jours, à gauche comme à droite? Et après un petit exposé, il y aura proposition de chercher ensemble de nouvelles questions et peut-être quelques réponses.
Voilà, donc on vous invite, c'est l'agenda, on poursuit. Samedi 20 novembre à 16h, c'est à la librairie Au Bonheur des Dames, 5 rue Nino à Toulouse. Et c'est une rencontre dédicace en présence de Natacha Tchekouti-Ozorovitch. Son livre, c'est Femmes en prison et violences de genre, résistance à perpétuité. Il va à rebours des stéréotypes et il se consacre aux femmes incarcérées pour de longues peines. Natacha, en s'appuyant sur les récits de détenus, reconstruit des itinéraires marqués par la violence de genre que ces femmes ont subies en amont de leur passage à l'acte et de leur condamnation. C'est donc la mise en évidence de ce continuum de violence que tient d'abord l'originalité de ce livre. Et dans le même esprit, l'auteur montre comment le parcours pénal est façonné par un dispositif disciplinaire où les femmes doivent se conformer à l'ordre social de genre. Donc cette ethnographie de longue durée traite des questions d'actualité que sont la carcéralisation, le consentement, les violences de genre et l'émancipation. Femmes en prison et violences de genre, résistance à perpétuité, redonne et reconnaît ainsi à ces détenus leur pleine humanité. Donc c'est samedi 20 novembre à 16h, librairie Au Bonheur des Dames à Toulouse.
Et pour terminer, le mardi 23 novembre, Léo, qui est professeur des écoles et militant à la CGT Éducation 31, passera en procès à Toulouse à la suite d'une plainte émise par le Rassemblement National. Il est poursuivi pour des violences qui auraient été commises lors d'une distribution de tracts du Rassemblement National en février 2020 sur un marché populaire de Toulouse dans le cadre de la campagne municipale. Ce jour-là, plusieurs personnes ont exprimé leur refus des idées racistes, sexistes et homophobes en scandant des slogans antifascistes. Léo était de ceux et celles-là. Alors que ce sont les militants et militantes du Rassemblement National qui se sont montrés agressifs, menaçant les personnes présentes et les insultant, c'est Léo et ses convictions antifascistes donc, qui se retrouvent sur le banc des accusés. Donc il y a un appel à aller le soutenir donc, le mardi 23 novembre 2021 à midi au tribunal de grande instance du Palais de Justice, 2 allées Jules Guesde.
Bon, on clôture de l'émission. Alors l'émission, on vous rappelle, est en direct le jeudi de 19h à 20h. Elle est rediffusée le vendredi de 17h à 18h. On se retrouve tous les 15 jours, donc prochain rendez-vous. Alors je ne sais pas si c'est dans 15 jours le prochain rendez-vous. Il me fallait parce que... Dans 15 jours, oui.
Oui, si, dans 15 jours.
Oui, on se revoit dans 15 jours. C'est le 25 novembre, quelque chose.
Oui, je crois que c'est le 25 novembre.
Voilà. Donc, et vous pouvez quand même nous écrire d'ici là si vous avez des informations ou des commentaires à nous faire. Alors, tout simplement, par voie postale, c'est à la radio Canal Sud, donc Bruit de Tôle, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse, ou nous envoyer un petit mail. Donc, on a une adresse mail, c'est Bruit de Tôle. Alors, je rappelle que Bruit au pluriel, de Tôle, T-O-L-E-S, Bruit de Tôle tout attaché, minuscule, @no-log.org. D'autres choses à rajouter?
Eh bien, en attendant, on souhaite bien du courage à toutes les personnes qui sont enfermées.
La liberté, c'est toute l'existence, mais les humains ont créé les prisons, les règlements, les lois, les convenances, les ateliers, les bureaux, les maisons, et les raisons. Alors disons, mon vieux copain, la vie est belle, quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé partout, si l'on en croit l'histoire partout. On peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Pourquoi faut-il se compliquer la vie? pour de l'argent se faire des cheveux, alors qu'on peut vivre à sa fantaisie. Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on est heureux selon ses voeux. Mon copain, la vie est douce, vivons ce que vivent les fleurs, ne pas en foutre une secousse. C'est là le secret du bonheur partout, si l'on en croit l'histoire partout. On peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Il ne faut pas songer au mariage quand on est fait pour courir les chemins. En attendant d'être assagi par l'âge, contentons-nous d'amour sans lendemain. C'est le destin, mon vieux copain, la terre est ronde. Les femmes vont de tous côtés, quand on sera au bout du monde, il sera temps de s'arrêter partout, si l'on en croit l'histoire partout. On peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté.